Bonjour, ici Marc, bienvenue au 77e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark and Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. L'obligation de faire le mal. Si tout le monde sait qu'il existe des lois contre le vol et le meurtre, sauf lorsqu'ils sont commis au nom de l'autorité, le citoyen moyen ignore totalement les dizaines de milliers de pages d'autres statuts, règles et règlements émis par le gouvernement au niveau fédéral, étatique et local. Mais la plupart des gens, même s'ils n'ont qu'une très faible idée de ce que la loi permet ou ne permet pas, continuent à croire que obéir à la loi est une bonne chose et que désobéir à la loi est une mauvaise chose. En fait, même lorsqu'une personne est fortement opposée à une loi particulière qu'elle estime injuste, elle peut toujours avoir la conviction générale, contradictoire, que les lois doivent être respectées et qu'il est justifié de punir ceux qui désobéissent. Ce paradoxe psychologique est en fait assez courant, de nombreuses personnes faisant pression avec véhémence pour modifier ce qu'elles considèrent comme de mauvaises lois, tout en soutenant l'idée que, tant que c'est la loi, les gens doivent y obéir. De telles contradictions mentales sont courantes dans le contexte de la croyance en l'autorité, mais elles sont rares en dehors de ce contexte. Par exemple, personne ne soutiendrait qu'il est moralement mauvais d'essayer de voler le sac à main d'une vieille dame, mais qu'il est également moralement mauvais que la vieille dame s'accroche à son sac à main. Mais le concept de mauvaise loi, dans l'esprit de celui qui croit en l'autorité, se résume à un paradoxe similaire, un mauvais ordre auquel il est également mauvais de désobéir. Le spectateur qui croit en l'autorité peut considérer qu'un ordre particulier, édicté par les maîtres et mis en œuvre par les exécutants, est sans importance, inutile, contre-productif, voire stupide ou injuste, tout en estimant que les gens ont toujours l'obligation morale d'obéir à cet ordre, tout simplement parce que c'est la loi. Les exemples des effets d'un tel point de vue abondent, allant du banal à l'horrible. En voici quelques-uns. Exemple 1. À 2h du matin, sur une route déserte, toute droite et bien large, traversant des terres agricoles non peuplées, un conducteur a ralenti mais ne s'arrête pas au panneau stop d'une rue transversale. Un policier, caché à une centaine de mètres derrière des buissons, allume son gyrophare. Presque tout le monde, au vu de ces faits, serait d'accord pour dire que le conducteur n'a blessé ou mis en danger personne, ni les biens de personne, et pourtant la plupart des gens seraient d'accord pour dire que le policier aurait le droit d'exiger un paiement de la part du conducteur par le biais d'une contravention. En d'autres termes, même s'ils admettent que la seule chose mauvaise dans ce que le conducteur a fait est que c'était techniquement illégal, ils pensent que cela suffit à justifier de voler de l'argent au conducteur en le menaçant de violence. Si le conducteur tente de quitter les lieux plutôt que d'accepter la contravention, la plupart des spectateurs s'accordent à dire que le policier a raison de le poursuivre, de le capturer et de l'emprisonner. Deuxième exemple. Un inspecteur du gouvernement, du service sanitaire d'un État, procède à l'inspection d'un restaurant. Le restaurant est parfaitement propre et organisé, et l'inspecteur ne trouve aucune indication que quoi que ce soit présente un risque pour la santé de qui que ce soit. Il constate néanmoins plusieurs infractions techniques au code local des restaurants. En raison de ces infractions, non pas parce qu'elles représentent un danger pour quiconque, mais parce qu'elles sont contraires aux règles, le propriétaire du restaurant se voit infliger une amende de plusieurs centaines de dollars. Là encore, même si le restaurateur n'a fait de mal à personne, ou n'a mis en danger personne, ou la propriété de personne, la plupart des gens considéreraient qu'il est légitime que le propriétaire soit dépouillé par ceux qui agissent au nom du gouvernement. Et si le propriétaire tentait de résister à ce vol, que ce soit en essayant de dissimuler les violations techniques ou en soudoyant l'inspecteur, ou encore en refusant de payer l'amende, il serait considéré comme immoral par la plupart des gens, et les responsables de l'application de la loi seraient considérés comme ayant le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour le forcer à obéir aux lois. Exemple 3. Un homme ramène son ami chez lui après une fête. Sachant qu'il devrait conduire, il n'a pas bu d'alcool, alors que son ami en a bu. Il dépose son ami et rentre chez lui. Il remarque que la police effectue un contrôle routier de sobriété devant lui et se souvient que son ami a laissé sa bouteille de bière à moitié pleine dans la voiture. Sachant qu'il est illégal d'avoir une bouteille d'alcool ouverte dans sa voiture, il la recouvre. Il n'a blessé ni mis en danger personne et a même agi de manière très responsable en jouant le rôle de conducteur désigné pour s'assurer que son ami rentrerait chez lui sain et sauf. Cependant, il a tout de même enfreint la loi, entre parenthèses bien qu'accidentellement, en conduisant une voiture dans laquelle se trouvait une bouteille de bière ouverte. Et il a ensuite essayé de dissimuler les preuves de ce fait. S'il était pris en flagrant délit et arrêté, peu de gens considéreraient le policier comme le méchant de la situation. Quatrième exemple. Un homme vend un fusil de chasse dont le canon est plus court d'un quart de pouce que ce que la loi autorise. L'arme n'est pas plus mortelle qu'un fusil de chasse plus long d'un quart de pouce et aucune des personnes impliquées n'a menacé ou utilisé la violence contre qui que ce soit. Mais l'homme, qui a été pris en possession de l'objet illégal, est soumis à une invasion paramilitaire de sa propriété, suivie d'un affrontement armé, au cours duquel plusieurs personnes sont tuées. Malheureusement, cet exemple n'est pas hypothétique. Il est arrivé à Randy Weaver lors de l'incident de Ruby Ridge en 1992. Il n'a pas seulement été surpris en train de vendre un fusil de chasse illégal, il a été incité à le faire par des agents de la force publique sous couverture. Le résultat de l'invasion armée de la propriété des Weaver, de la fusillade qui s'en est suivie et du siège prolongé dont la famille a été victime est que la femme et le fils de M. Weaver ont été tués et que lui-même et un ami ont été blessés. Bien qu'il soit absurde de prétendre qu'il existe une différence morale entre la possession d'un fusil à canon de 18 pouces et celle d'un fusil à canon de 17 pouces 3 quarts, et même si cette allégation constituait la justification légale de l'agression armée et de la confrontation, de nombreux spectateurs continueraient à blâmer Randy Weaver, le considérant comme le méchant de la situation, pour s'être laissé convaincre d'enfreindre une loi arbitraire et complètement irrationnelle, sans parler de son inconstitutionnalité. Tel est le pouvoir de la croyance en l'autorité. Elle peut amener de nombreuses personnes à considérer une bande de voyous sadiques et meurtriers comme les bons et leurs victimes comme les méchants. Pour la plupart des gens, enfreindre la loi, sans préciser de quelle loi il s'agit, a automatiquement une connotation négative. Ils considèrent la désobéissance à l'autorité non seulement comme dangereuse, mais aussi comme immorale. Mais pour les adeptes du gouvernement, désobéir ouvertement à un agent de l'autorité est encore pire que de commettre un crime mineur sans victime. Le spectateur moyen, lorsqu'il observe l'interaction entre une figure d'autorité et quelqu'un d'autre, considérera souvent avec dédain toute personne qui ne répond pas immédiatement et sans poser de questions à un homme portant un uniforme et qui ne se plie pas à ses demandes. Même si la personne s'exécute, mais fait preuve d'une mauvaise attitude à l'égard de la figure d'autorité, toute attitude autre que la soumission docile, de nombreux spectateurs s'empresseront de condamner celui qui ne s'incline pas. Et celui qui fuit la police, même s'il n'a rien fait de mal au départ, est considéré avec mépris par la plupart des gens. Et lorsque quelqu'un qui s'enfuit, se cache ou refuse de coopérer est battu, torturé ou même assassiné par les forces de l'ordre, de nombreux spectateurs estiment que la victime aurait dû faire ce que la police lui demandait de faire. Et lorsque quelqu'un résiste activement à une figure d'autorité, rares sont ceux qui ont le courage de prendre le parti de cette personne, quelles que soient les circonstances, même avec de simples mots. De même qu'un chien bien dressé ne mord pas son maître, même s'il est sadiquement maltraité, de même ceux qui ont été formés à se plier à l'autorité sont généralement psychologiquement incapables de lever le petit doigt pour se défendre, et encore moins pour défendre quelqu'un d'autre, contre toute agression commise au nom de la loi, du gouvernement et de l'autorité. En effet, en raison de leur endoctrinement autoritaire, la plupart des gens condamneraient plus volontiers leurs compagnons d'infortune qu'ils ne se joindraient à eux pour résister à la tyrannie. Il y a bien sûr une différence entre dire qu'il n'est pas intelligent pour quelqu'un de faire quelque chose et dire qu'il est immoral de faire quelque chose. C'est une chose de dire qu'il est stupide pour quelqu'un de dire ce qu'il pense à un policier, et une autre de dire que c'est en fait immoral et que celui qui le fait mérite donc les mauvais traitements ou la punition qu'il reçoit. Les partisans de l'autorité expriment souvent cette dernière opinion à propos de toute personne qui défie la police, quelle qu'en soit la raison. L'idée que des gens ordinaires puissent imposer la justice à des représentants de la loi qui se comporteraient de manière immorale terrifie existentiellement les étatistes, même lorsqu'un représentant de la loi a commis un acte aussi grave qu'un meurtre. Aux yeux des personnes bien endoctrinées, la seule ligne de conduite civilisée dans une telle situation est de supplier une autre autorité d'arranger les choses, mais jamais de se faire justice soi-même. Les gens peuvent se plaindre et condamner l'injustice légale, mais peu sont capables d'envisager la possibilité de s'engager dans une résistance préméditée et illégale. Même lorsque les agents du gouvernement infligent une brutalité sadique à des cibles non armées et non violentes. Et si, par un lavage de cerveau prolongé, un peuple peut être rendu psychologiquement incapable de résister aux oppressions commises au nom de l'autorité, il importe peu que ce peuple ait les moyens physiques de résister. Les tyrans modernes et leurs exécutants sont toujours en infériorité numérique et souvent dépassés également en nombre d'armes par rapport à leurs victimes dans un facteur de 100 ou 2000. Pourtant, les tyrans conservent le pouvoir non pas parce que les gens n'ont pas la capacité physique de résister, mais parce que, du fait de leur croyance profondément inculquée en l'autorité, ils n'ont pas la capacité mentale de résister. Comme l'a dit Stephen Biko, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de La superstition la plus dangereuse, la violence, deux poids, deux mesures.